Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Donald Trump est en difficulté. Il est distancé dans les sondages à l'approche de la présidentielle américaine du 3 novembre. Et 60% des Américains, toujours d'après les enquêtes d'opinion, jugent mauvaise sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Lui-même atteint, malade, il avait une occasion de changer de posture, de se montrer plus rassembleur. Pas du tout. Avant, pendant et après son hospitalisation, le 45e président des États-Unis est resté fidèle à lui-même. Cet épisode de Code Source est raconté par Marc Chalamet, l'un des correspondants du Parisien aux États-Unis. Il vit à New York depuis plus de 30 ans. Marc Chalamet, le lundi 12 octobre, Donald Trump est en meeting à Sanford, en Floride.
Et c'est son premier meeting depuis qu'il est sorti d'hôpital. Ses supporters l'attendent de pied ferme.
It's a lot of people.
Il est devant la foule, séparé de lui d'une vingtaine de mètres. Il arrive sans masque. Il jette quelques masques à ses supporters, mais la plupart de ses supporters n'en portent pas. On les verra interviewés plus tard. Ils raconteront pourquoi ils ne portent pas de masque. Ils n'ont pas peur d'attraper le virus. Ils pensent que le virus est une fabrication des médias.
Et ils sont comment ? Ils sont galvanisés ?
Complètement galvanisés. Trump aime ce genre de meeting. Il a des téléprompteurs, évidemment. Mais il est très bon pour haranguer sa foule de supporters. Quand il le souhaite, il scande ce qu'il veut. C'est vraiment un tribun. À un moment, il dira même à la foule qu'il est prêt à entrer dans la foule. Il ne le fera pas, mais il est prêt à entrer dans la foule pour embrasser les hommes et les jolies femmes.
Distancé dans les sondages, Donald Trump sillonne à nouveau les États-Unis, à peine remis du Covid-19. Marc Chalamet, vous allez nous raconter comment il a géré sa propre maladie. Mais avant d'aller plus loin, on va rappeler sa gestion de l'épidémie de coronavirus dans son pays. Au tout début, à plusieurs reprises, il minimise l'ampleur du problème.
Oui, absolument. Le 22 janvier, il déclare que le virus est totalement sous contrôle.
We have it totally under control. It's one person coming in from China. And we have it under control. It's going to be just fine.
Donc le 22 janvier, on sait déjà que les nouvelles de Chine sont mauvaises, mais il va constamment minimiser la gravité de la crise. Il a toujours exagéré les chances de disparition du virus, une disparition spontanée ou de découverte d'un vaccin qui permettrait de juguler l'épidémie.
À la fin du mois de janvier, Donald Trump interdit l'entrée sur le territoire américain aux voyageurs de retour de Chine. Même chose pour l'Europe le 11 mars. Et deux jours plus tard, il décrète l'état d'urgence nationale. Mais dans les mois qui suivent, il se veut une nouvelle fois rassurant.
Et en fait, il présente sa théorie une fois de plus sur ce virus qui sera parti en avril, dit-il. Et surtout grâce au beau temps, aux températures qui montent.
À ce moment-là, il porte le masque ?
Non, il ne porte pas de masque.
Marc Chalamet, cette pandémie et le ralentissement mondial de l'activité économique qui ont suivi, ça réduit ses chances de réélection ?
Absolument. Avant cette pandémie, Trump pensait être réélu relativement facilement. C'était possible à l'époque. L'économie tournait à plein régime. Il était à 3,5% de chômeurs, ce qui était un record. Ça est le record de Wall Street. Wall Street qui battait tous ses records les uns après les autres.
Le 21 septembre encore, Donald Trump minimise l'ampleur de l'épidémie.
Take your hat off to the young, because I have a hell of an immune system. But it affects virtually nobody. It's an amazing thing.
Oui, effectivement, dans un meeting dans l'Ohio, il dira que le virus n'affecte presque personne. On est le 21 septembre. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts.
Le lendemain, le 22 septembre, le seuil symbolique des 200 000 morts est franchi aux États-Unis.
Les États-Unis sont à ce moment-là, et encore maintenant, le pays le plus endeuillé de la planète. C'est largement plus que tout autre pays, plus que le Brésil et l'Inde qui sont derrière.
Comment réagit Donald Trump quand ce seuil symbolique des 200 000 morts est franchi ?
Bon, il dit que c'est dommage, que c'est horrible, mais il dit aussi que son gouvernement a fait le mieux possible et qu'un autre gouvernement aurait été bien pire. Il y aurait un bilan de plusieurs millions de morts.
À ce moment-là, Marc Chalamet, l'actualité aux États-Unis, c'est aussi la mort de la juge progressiste à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, RBG. Elle avait 87 ans. Et le 26 septembre, à Washington, à la Maison-Blanche, Donald Trump organise une fête pour dévoiler le nom de celle qui va la remplacer.
C'est une soirée d'été, c'est festive, à Washington, environ 200 invités. Au départ, les gens sont assis sur des bancs, sur la pelouse. Quasiment personne n'a de masque. Et après, à la réception, les gens iront dans les salons de la Maison-Blanche, à l'intérieur donc, toujours sans masque. Il y a des images stupéfiantes de gens qui s'embrassent par exemple, ils se font la bise, ça discute, ils sont très près les uns des autres.
Le jeudi 1er octobre, sa proche collaboratrice, Hope Hicks, est testée positive au coronavirus. Qui est-elle d'amour ?
Hope Hicks est une ancienne mannequin qui était la directrice de la communication de la Maison-Blanche au début du mandat de Trump. Elle a démissionné, puis elle est revenue, et c'est une conseillère maintenant de Trump pour la stratégie. Par exemple, elle est là pour l'aider dans son débat contre Biden.
Et donc, elle est très régulièrement avec lui, à ses côtés.
Elle est très souvent avec lui et la veille. Hope Hicks était avec le président dans l'avion qui les amenait au Minnesota pour un dîner de collecte de fonds.
Et quelques heures plus tard, Donald Trump annonce attendre avec sa femme les résultats d'un test du Covid.
On apprendra plus tard que le test de dépistage, le jeudi soir, donc le lendemain de l'infection de Hope Hicks, le jeudi soir, son test a été positif. Mais c'est un test qui a été fait avec cet appareil de dépistage rapide, mais pas très fiable apparemment. Et c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, donc un peu avant 1h du matin, que Trump annonce dans un tweet que lui et la First Lady ont été testés positifs.
Stunning news. The president tweeting out just moments ago here in the United States, 12:54 a.m., said, "Tonight, FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this together."
Comment réagit son adversaire démocrate, Joe Biden?
Il réagit à l'américaine, c'est-à-dire qu'il dit qu'il va prier, qu'il souhaite un prompt rétablissement au président et à sa femme.
À ce moment-là, les médecins de la Maison-Blanche sont plutôt rassurants.
À ce moment-là, il n'y a pas de panique. Ils disent qu'il est fatigué, qu'il tousse, mais qu'il est en forme. Son épouse tousse aussi, elle a un peu mal à la tête. Leur plan à eux, c'est de les garder à la Maison-Blanche le temps de leur convalescence.
Le lendemain après-midi, le vendredi 2 octobre, la Maison-Blanche annonce que le 45e président des États-Unis va être hospitalisé.
Alors là, c'est un vrai coup de théâtre. Les médias sont là, quand il sort de la Maison-Blanche, on le voit, il sort d'un pas plutôt assuré, mais il fait un petit signe faiblard de la main, et puis quand même, il fait son signe habituel, le pouce en l'air pour montrer que tout va bien. Et il monte les escaliers d'hélico sans problème apparent.
Et donc, il s'envole pour l'hôpital militaire Walter Reed, à Washington, dans le district de Columbia, et quelques heures plus tard, il publie une vidéo sur Twitter.
Je veux remercier tout le monde pour le tremendous support. Je vais au Walter Reed Hospital. Je pense que je vais très bien. But we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you.
Et là, c'est une vidéo qu'il a filmée à la Maison Blanche, donc avant de partir. Lui, qui est d'habitude bronzé, il apparaît pâle, il apparaît fatigué. Sa chevelure est aplatie, lui, qui est là toujours un peu bouffante. Il est diminué. Il dit à un moment, je pense que je vais très bien. Et c'est une touche d'incertitude qui n'est pas du tout trumpienne. C'est inhabituel de l'entendre dire quelque chose comme ça.
Pendant ce temps-là, la liste des cas positifs à la Maison-Blanche s'allonge.
Une fois qu'on apprend que Trump est positif, les gens qui étaient à cette soirée dans le Rose Garden s'inquiètent et se font tester. C'est là qu'on apprendra qu'il y en a au moins une trentaine qui ont été testés positifs, dont plusieurs personnalités connues. Il y a deux sénateurs, il y a le président de l'Université de Notre-Dame, il y a son ancien chef de la communication, il y a l'ancien gouverneur du New Jersey. Encore maintenant, on pense que c'est plus de 30.
Est-ce qu'on peut parler de cluster, de foyer de contamination à la Maison-Blanche dans l'entourage direct de Donald Trump?
Oui, absolument. Le docteur Anthony Fauci, qui est son principal conseiller médical sur la question du coronavirus, l'a dit lui-même. Il a dit que c'était un foyer de contamination particulièrement virulent. Et d'ailleurs, il a vivement critiqué cette réunion du 26 septembre à la Maison-Blanche.
Le samedi 3 octobre, c'est la cacophonie sur l'état de santé du président des États-Unis et sur les soins qu'il a reçus.
Les médecins arrivent, il y en a une dizaine de médecins en blouse blanche qui arrivent sur la pelouse pour parler à la presse.
Good afternoon, everyone. Thank you for being here.
Le médecin principal, Sean Cornet, intervient et il dit simplement que le président va bien. Il refuse de donner quelques détails que ce soit sur sa température, s'il a été testé positif le matin même, il ne peut rien dire. C'est le flou total.
Sorry, I think that's it. Yeah.
Thank you, guys.
Thank you.
Quasiment au même moment, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, livre une version différente sur Fox News.
Il dit que le président, en fait, a traversé une période très inquiétante.
Yesterday morning, we were real concerned with that. You know, he had a fever and his blood oxygen level had dropped.
Et qu'il a eu besoin d'oxygène.
Plus tard dans la soirée, Donald Trump publie une nouvelle vidéo sur Twitter qu'il poste depuis l'hôpital et il dit qu'il va bien en résumé.
I feel much better now. We're working hard to get me all the way back. I have to be back.
Sur cette vidéo, il n'a pas du tout l'air en forme, mais il annonce qu'il commence à aller mieux. Il s'insurge contre son chef de cabinet qui a d'abord, de manière anonyme, puis après devant la presse entière, a dit que le président avait été malade et que tout le monde s'était inquiété de sa santé.
Et dans cette vidéo, Donald Trump se justifie sur son manque de prudence face au Covid-19.
Il refuse d'endosser la moindre responsabilité.
This is America. This is the United States. This is the greatest country in the world. This is the most powerful country in the world. I can't be locked up in a room upstairs and totally safe and just say, hey, whatever happens, happens. I can't do that.
Qu'il lui fallait le contact, qu'il fallait qu'il sorte. Il s'oppose à Biden, qui présente comme un candidat qui reste dans sa cave, comme il aime dire.
À ce moment-là, que disent ces médecins? Est-ce qu'ils annoncent qu'il est tiré d'affaire?
Non, il n'est pas tiré d'affaire. Les médecins s'inquiètent en fait de la baisse d'oxygène dans son sang. Et le lendemain, donc le dimanche, son médecin principal avouera qu'il a essayé d'enjoliver la situation.
Le dimanche, les nouvelles sont bonnes pour Donald Trump.
Oui, sa situation s'améliore. Apparemment, il est en meilleure santé. Et on a vu les images de lui, il va mieux. À ce moment-là, les médecins se déclarent prudemment optimistes.
Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur les traitements qu'il a reçus?
Le traitement que l'Américain de base ne peut pas obtenir. On sait qu'il prend un anticorps expérimental qui s'appelle Regeneron. Il prend aussi un antiviral, Remdesivir, et un stéroïde, dexamétasone. Rien que le Remdesivir coûte entre 2300 et 3000 dollars.
Dans la foulée, l'après-midi, Donald Trump publie une nouvelle vidéo sur Twitter.
Oui, effectivement, il annonce qu'il a beaucoup appris sur la maladie, peut-être sur lui, mais en tout cas sur la maladie.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
Et on peut voir qu'il a repris du poil de la bête. Il est en forme. On notera quand même qu'il est essoufflé par rapport à la normale. Mais physiquement, il est en forme, il sourit, on le sent soulagé.
Un peu plus tard, ce jour-là, il sort de l'hôpital dans son énorme limousine pour aller saluer ses supporters qui sont juste devant l'hôpital Walter Reed.
Ses supporters se sont rassemblés, des dizaines d'entre eux, depuis qu'il a été hospitalisé. Et il le sait. Et il a laissé entendre sur Twitter qu'il allait sortir, malgré les avis défavorables de ses médecins. Et il sort effectivement dans sa limousine, une grosse Chevrolet noire. On le voit à peine parce qu'il est masqué. Et il fait signe, un petit signe de la main. C'est une sortie qui est très peu appréciée de ses médecins. D'ailleurs, je crois qu'un de ses médecins a exigé que tous les gens qui étaient avec lui dans la limousine se placent en quarantaine.
À l'aube, le lundi 5 octobre, il publie sur Twitter une vingtaine de messages en lettres majuscules pour appeler ses partisans à se mobiliser.
Il envoie une salve de tweets. Et là, on voit qu'il a retrouvé son rythme. Ce qu'il dit, c'est... voter, il dit liberté de religion, tout ça c'est en majuscule, voter. Plus grande baisse d'impôts de l'histoire américaine, voter. Loi et ordre, voter. Soins de santé meilleurs et moins chers, voter. Le 2 octobre, donc quand il est à l'hôpital, il en envoie 2 ou 3, c'est tout. Le 4, je crois qu'il en a envoyé 8. Le 5, il est reparti à son rythme normal, une quarantaine au total. C'est le meilleur signe que sa santé s'améliore.
Quelques heures plus tard, le président américain annonce sur Twitter une fois encore qu'il va quitter l'hôpital Walter Reed et une nouvelle fois, il appelle à ne pas trop s'inquiéter face au coronavirus.
Il a retrouvé la forme, c'est indiscutable. Il dit qu'il se sent très bien. Il dit surtout aux Américains, n'ayez pas peur du Covid, ne le laissez pas dominer votre vie. Et une fois de plus, il se félicite de l'action de son gouvernement.
Le soir, il rentre à la Maison Blanche, comme il était parti en hélicoptère, sur fond de soleil couchant.
Le président Trump, tout le monde le sait, c'est vraiment un champion du marketing. Et cette scène, l'hélicoptère sur fond de soleil couchant, c'est une scène de cinéma. Alors non seulement la scène est parfaite, il a de la chance parce qu'il fait beau, mais il a tout prévu, évidemment, dont l'heure de sortie de l'hôpital. C'est l'heure des journaux télévisés, donc toutes les chaînes d'actualité diffusent ça en direct. Et il faut dire que l'événement est majestueux, de voir cet hélicoptère tournoyer lentement au-dessus de la pelouse de la Maison Blanche, atterrir avec précision, c'est stupéfiant. Alors, il descend tout seul de l'hélicoptère et tout seul encore, il gravit les marches qui l'amènent à l'étage de ce qu'on appelle la Blue Room de la Maison Blanche. Et il enlève son masque, il est masqué là quand il monte les escaliers. Et là, il reste là, immobile. Et à côté de lui, il y a les quatre bannières étoilées. Les caméras des journaux télévisés tournent pendant presque 3 minutes. C'est pour la photo, c'est pour reprendre le dessus. Il lève les pouces, son geste habituel, et il salue l'hélicoptère qui s'envole.
He clearly wanted a moment. And maybe he's saluting the doctors and nurses who helped cared for him, or and there you go. He's just finished his standing.
Le lendemain, le médecin de la Maison Blanche dit que Donald Trump a passé une bonne nuit de repos. Le jour suivant, il annonce qu'il n'a pas eu de fièvre depuis 4 jours et qu'il n'a aucun symptôme depuis 24 heures. Et le vendredi 9 octobre, Donald Trump accorde sa première interview face caméra à Fox News. Le même jour, il parle ensuite à la radio pendant près de 2 heures avec un journaliste conservateur.
Alors c'est une interview décousue avec un de ses journalistes favoris.
And greetings to you, music lovers, thrill seekers and conversationalists all across the fruited plain. Welcome to the Rush Limbaugh program. Mr. President, it is... We are so glad you're doing better and welcome... To the EIB network.
Le président apparaît quand même essoufflé à certains moments, sa voix est un peu éraillée et surtout il est très agressif vis-à-vis de Kamala Harris, la colistière de Biden, qu'il traite de monstre et de communiste, mais il s'en prend aussi à ses propres alliés, le ministre de la Justice, William Barr, et son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo. Des propos vraiment outranciers.
Et donc certains observateurs se demandent si ce n'est pas son traitement qui change son humeur, sa façon d'être.
Si, justement. Les effets secondaires là, de son médicament stéroïde, la dexaméthasone, comprennent l'altération de l'humeur, en particulier des troubles cognitifs. Mais en général, c'est si on prend ces médicaments sur le long terme, pas sur 2 ou 3 jours.
Donald Trump va recevoir des militants le samedi 10 octobre à la Maison Blanche et à son balcon, il se déclare une nouvelle fois en grande forme.
Il est là, c'est la bain de foule, il est visiblement revenu à son meilleur niveau. Sa voix est quand même éraillée par moments, encore une fois.
I'm feeling great, I don't know about you, how's everyone feeling?
On sait qu'il tire une grande partie de son énergie de ses rassemblements et il se présente sur le balcon en costume cravate, plein d'énergie, devant, je sais pas, il y a une bonne centaine de supporters qui sont massés sur la pelouse, qui scandent son nom, qui scandent « Four more years »,« USA, USA ».
Thank you very much. Thank you.
Il promet une fois de plus qu'un vaccin va bientôt venir à bout de l'épidémie. Et puis, il présente son programme économique, le but étant, dit-il, d'éviter que les États-Unis ne deviennent un pays socialiste.
« We have made America proud again !»
Marc Chalamet, ce récit que vous venez de nous faire, est-ce qu'il est révélateur du mandat de Donald Trump ?
Oui, il est révélateur de l'ensemble de sa présidence, dans la mesure où il a esquivé la vérité, il a esquivé la réalité, il a envoyé une série de tweets, c'est un Trump égal à lui-même.
Il en est où, aujourd'hui, dans les sondages ?
Alors, dans les sondages, il dévisse. Tous les sondages le donnent battu. Il est distancé au niveau national de plus de 10 points maintenant. Mais au niveau national, comme vous le savez, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, puisqu'il peut perdre le nombre de voix, mais gagner au niveau des États. Donc c'est au niveau des États, quelques États pivots, la Floride, le Michigan, le Wisconsin, l'Ohio, c'est ces États-là qu'il se doit de remporter. Et même là, il est en retard. Il n'y a qu'en Floride que ça se joue encore d'après les sondages.
On le disait au début de cet épisode, Marc Chalamet, depuis le lundi 12 octobre, Donald Trump est reparti en campagne, meeting en Floride, en Pennsylvanie, dans l'Iowa, en l'espace de 3 jours. Est-ce qu'il croit encore en ses chances ?
Oui, absolument, c'est clair. Trump est un battant. Et sa victoire en 2016 l'a convaincu qu'il était invincible, c'est l'impression qu'il donne. Et les sondages sont très mauvais pour lui, mais bon, il rappelle à tout le monde que les sondages le donnaient perdant contre Hillary Clinton il y a 4 ans. Et je crois qu'il est persuadé qu'il va gagner. Je crois pas que ce soit bidon. S'il est battu, il prépare déjà le terrain. Il dit que ce sera à cause d'une vaste fraude électorale. Donc il y croit encore.
Merci à Marc Chalamet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation, Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.